Je me précipite parce que sinon je vais peut-être pas y arriver encore une fois. Bon, ça fait un an que je suis pas venu au micro, un peu plus. J'étais puni par les anciens, manque de sérieux. Je suis pas crédible, hein. C'est pas vrai. C'est à ma demande, en fait. J'avais un peu du mal à gérer plusieurs choses, donc j'ai demandé à faire une pause. Voilà. En tant que chrétien, en fait, notre problème principal, c'est le péché. Je pense que ça, c'est pas une révélation pour vous. Et c'est lui qu'on voudrait éradiquer de notre vie. Et en fait, quand on commence à réfléchir au problème du péché, on tourne vite en boucle. Enfin, en tout cas, ça a été ma pensée quand j'ai préparé ça. Cette boucle, c'est quoi? C'est est-ce que c'est moi qui fais le pas ou est-ce que c'est Dieu qui le fait? Est-ce que c'est à moi à faire quelque chose pour me sortir du péché ou est-ce que c'est Dieu qui fait quelque chose? Alors, il y a des réponses faciles. Non, c'est Dieu qui fait tout. Ouais, mais n'empêche que des fois, ça bloque et qu'on se dit, bah alors pourquoi il le fait pas? Est-ce que j'ai pas quand même un pas à faire? Et finalement, j'ai mon pas à faire quand même dans le sens où j'ai des choses à faire pour permettre à Dieu d'agir dans ma vie. Je dois le laisser agir, je dois le laisser être Seigneur sur ma vie. Il y a plein de choses et quand on fouille les versets, ça peut vite devenir après compliqué, surtout dans certains contextes. Et donc c'est de ce contexte-là que je voulais parler aujourd'hui, de péché récurrent. Alors, qu'est-ce que j'appelle par là ? Un péché qui revient tout le temps dans notre vie. Vous savez, qu'on traîne comme un boulet et qu'on commet une fois, une deuxième fois et qui revient régulièrement et qui nous pourrit la vie. Et en fait, quand on est dans cette situation-là, alors là, cette question-là de qui est-ce qui fait le pas, elle devient vitale parce que on est coincé dans notre situation et on se dit, bah oui, mais moi j'ai fait tout ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire de plus? Et puis en même temps, Dieu, il le fait pas, donc peut-être qu'il me manque quelque chose alors que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et là, ça travaille et on a du mal à s'en sortir. Donc c'est le sujet de ce matin, donc. Et l'un des versets qui pose cette question un peu comme ça de qui fait quoi, c'est dans Colossiens 1, verset 29. Ça dit, c'est à quoi, donc c'est Paul qui parle, hein, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Voilà, il y a de Dieu, il y a de moi, il y a un peu des deux, et c'est pas toujours simple de s'en sortir, surtout quand on est dans une situation de péché ou de situation compliquée en tout cas. Un exemple, alors peut-être pour ceux qui me suivent pas, imaginons qu'un chrétien il devient convaincu que fumer c'est péché. Il dit bon maintenant j'arrête. Je maintenant le Seigneur m'a montré dans mon cas moi que c'était un péché. Il faut que j'arrête. Et il arrête un certain temps, et puis là, hop, il chute. Alors, bon, la première fois, il dit, c'est pas grave, je me suis raté, mais je vais me reprendre, et ça ira mieux après. Mais il rechute, et il chute encore, et encore, et encore, et il arrête pas. Et là, dans sa tête, c'est compliqué, parce que, comment je peux m'en sortir? Moi, j'ai l'impression que je fais tout mon possible, et je peux pas faire plus. Et pourtant, Dieu, il fait pas le nécessaire non plus, et c'est lui qui devrait le faire, ou alors est-ce que c'est moi? Enfin, et là, voilà. Là, c'est des situations compliquées. Alors, je dis, une fumée, ça peut être un tas de choses, hein. Ça peut être manger, ça peut être un tas d'addictions, en fait. Mais voilà, c'est cette situation-là qui est compliquée à gérer. Et quand on en vient dans cette situation-là, ça pèse parce que on en arrive à un point, je pense, où on se dit, mais finalement, est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je continue à pécher? C'est pas normal quand même. Et c'est qu'il y a quelque chose que j'ai raté dans ma vie avec le Seigneur, je suis peut-être pas sauvé, ou on en arrive même à se dire, je suis pas sauvé complètement. C'est comme si on pouvait être sauvé en partie, mais pas complètement. Puisque de toute façon, je suis incapable de faire le bien. C'est que je suis pas sauvé. Il y a une certaine logique dans ça. Alors, je pense pas que j'exagère quand je dis toutes ces choses, je crois que vraiment on y arrive dans notre tête quand on est dans cette situation-là et ça nous pose beaucoup de problèmes en fait. Voilà, alors du coup je voulais vous donner quelques éléments, en tout cas c'est des éléments que moi j'ai reçus pour ma propre vie et donner des éléments pour essayer d'avancer. Je pense que ce qui était intéressant c'était les propos d'Emmanuel tout à l'heure dans ce contexte-là. Voilà, il y a des vagues qui peuvent nous faire rouler, nous faire tanguer et plus s'en sortir, plus avancer. Et au contraire, faut réussir à prendre ces vagues de la bonne manière pour avancer et avancer dans la vie chrétienne. Et voilà, c'est des petites pistes. Après, voilà, j'ai pas la solution à tous les problèmes, hein, mais des petites pistes que moi j'ai reçues du Seigneur pour avancer dans ces situations-là et essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, la première chose que j'ai notée, c'est il ne faut pas douter. Ça, je crois que c'est vraiment important. On en arrive dans ces situations-là forcément à douter d'un tas de choses, du salut en particulier, mais en fait c'est ce que voudrait le malin. Et je pense que dans cette situation-là, si on en arrive déjà à se reconnaître en tant que pécheur, alors c'est qu'on a fait un bon point et c'est que le Seigneur y a déjà œuvré dans notre vie. On n'est pas loin de lui. Celui qui a un problème, c'est celui qui pêche et qui s'en aperçoit pas. Si je pêche et que ça me pose problème et que je sens que ça va pas, alors c'est déjà un signe que l'esprit y travaille et que, voilà, on n'est pas dans une situation normale pour notre vie de chrétien. Donc c'est déjà un bon signe. Il faut pas douter, se dire ben j'ai tout raté, le Seigneur il fait rien dans ma vie. Non, si j'ai cette sensation de pas être bien avec le péché, c'est bien. Phrase un peu bizarre, mais voilà. Si je reconnais Jésus-Christ comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, alors il l'est. Voilà. La Bible, elle est claire à ce niveau-là. Il y a beaucoup, beaucoup de versets. J'en ai retenu deux, mais bon. Il y a 1 Jean 5, versets 10 à 13, qui dit: Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage: c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Elle est simple, cette phrase, hein. Mais quand on doute, ça devient compliqué pour nous. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dans Romains 10, verset 9, on peut lire: Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture: quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, ce n'est pas une question de s'auto-persuader que je suis sauvé. C'est une question que dans certaines situations, les sentiments, les sensations sont fausses, en fait, sont faussées, sont pas claires et qu'elles peuvent nous poser problème. Et il faut pas reposer notre salut sur le sentiment, la sensation d'être sauvé. Je sais que c'est des choses qui m'avaient posé problème. On en avait discuté avec Kiss une fois et il me disait: mais tu peux pas te baser sur ton sentiment d'être sauvé. On l'a forcément à un moment ou à un autre, ce sentiment, mais des fois pas au début de la vie chrétienne. On se sent pas sauvé particulièrement et puis voilà, ben ouais, j'ai fait un pas avec le Seigneur, mais finalement est-ce qu'il s'est passé quelque chose? J'ai rien ressenti, mais pour autant la Bible me dit que si je me suis donné à lui, si je confesse mes péchés, si je le confesse lui, alors je suis sauvé. Voilà. Et là, le sentiment, il viendra après, et il est aussi caché par ces situations comme ça, quand on est dans le péché, dans des situations compliquées, on n'a plus la vue qui est suffisamment claire pour avoir cette sensation-là. Et donc, faut se baser sur la parole, lui faire confiance que voilà, on n'est pas en train de rétropédaler, tout refaire, tout casser. Voilà, Dieu m'a sauvé, c'est un acquis, il faut bâtir dessus, faut pas s'arrêter là. Si je pêche et que je le sais, j'ai une conviction de péché. Je sais que j'attriste Dieu et j'attriste moi-même aussi. C'est ça qui est bon signe, en fait. C'est la preuve que l'esprit, il est en moi et que le péché le gêne. Voilà, c'est une bonne nouvelle, en fait, dans ça. Douter de mon salut ne fait que compliquer l'affaire. Parce qu'au final, je me penche sur ce problème de salut, de est-ce que Dieu fait vraiment quelque chose dans ma vie, et je ne règle pas mon problème en question. J'ai détourné les yeux du problème et il avance pas, celui-là. Il continue à me bloquer. Et ça, c'est le jeu du diable, de me tromper, de me bloquer comme ça dans ma vie avec le Seigneur. Mais pourquoi est-ce que ça dure aussi longtemps aussi? Au bout d'un moment, il faut bien que je sois délivré. J'ai pas de réponse au cas particulier. J'ai des réponses pour moi-même, mais pas pour vous, malheureusement. Mais on a eu un élément de réponse au mois de juillet. Et c'était Étienne qui parlait, en fait, je sais plus quel exemple il avait pris, mais de donner du fruit en notre saison. Dieu, il a souvent besoin de temps pour nous former, pour nous apprendre, pour utiliser les tentations, les problèmes, les épreuves, pour nous former et faire quelque chose. Et malheureusement, au plus je suis long à apprendre, au plus ça va durer pour que j'apprenne. Alors, Seigneur, il a des façons de faire avec chacun qui sont différentes, mais des fois je me dis que je dois être mauvais à apprendre parce qu'il fait durer les solutions, et voilà. Il faut aller jusqu'au bout pour apprendre complètement, et après le Seigneur, voilà, il délivre et c'est fini, on n'en parle plus. Mais voilà, il y a un travail à faire et le temps joue son œuvre aussi, en fait, avec le Seigneur fait pas tout comme ça dans la seconde, il peut le faire, mais il utilise le temps aussi, l'épreuve et la durée pour nous faire apprendre correctement et le faire rentrer et bien accrocher dans notre cœur. Ah, donc c'est un élément, après il y en a certainement d'autres, mais. Alors, ne pas douter de son salut, ça c'est un point. Le deuxième point, Je vais être assez lourd dessus, mais c'était mon cœur quand j'ai préparé ça. C'est la repentance. Je crois que c'est le point le plus important dans tout ça, en fait. Alors, on dit oui, je pêche toujours, voilà, mais qu'est-ce que je peux faire alors, à part ne pas douter, me repentir. Chaque fois que je pêche, je me repens et je me repens et je continue et je persévère dans la repentance. Alors, quand on parle de repentance, l'un des passages qui est intéressant sur ça, c'est le psaume 51. Alors, vous pouvez y tourner, là, on va le lire en entier, ou presque. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans le psaume. On va pas tout prendre en détail, tout expliquer. J'ai retenu juste quelques idées. On les prend de manière, on va dire chronologique dans le texte. Il commence donc David en disant: Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Ça, c'est un point important. C'est sur les qualités de Dieu qu'on peut compter, pas les nôtres. Mais c'est parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux, qu'il efface nos péchés, qu'il nous pardonne. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. C'est lui qui fait le travail de purification, c'est lui qui fait le travail de lavage. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Là, on reconnaît cette situation où, quand on a péché, on a l'impression qu'on ne voit plus que ça. On est complètement bloqué sur ça et c'est ça qui nous empêche d'avancer. Et voilà, David était dans cette situation-là. Il avait commis, je pense, un péché qui était bien plus grave que ce que nous, on peut connaître, on peut commettre. Après, je ne connais pas vos vies, mais voilà. Lui, il avait fait tuer quelqu'un pour récupérer sa femme. Donc voilà, il avait quand même commis quelque chose de là, on peut comprendre qu'il ne voyait plus que ça. Il sait qu'il a péché contre Dieu au verset 6. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Dieu sait, David sait, pardon, que Dieu est juste et que éventuellement il va subir une punition, quelque chose. Dans le cas de David, la punition, ça a été la mort de l'enfant qui avait été conçu. Donc il a été puni pour ça. Il y a des fois, on n'est pas puni. Il y a des cas différents. Dieu est juste et il sait que dans certains cas, il doit mettre une punition. Dans d'autres, il la met pas. Voilà. Après, il faut pas que dans nos têtes, on bloque en se disant, j'ai fait quelque chose de mal. Maintenant, je dois être puni, sinon, c'est quelque chose qui va pas. Voilà. Il y a quelque chose de particulier dans votre situation. Dieu peut-être vous punira d'une manière ou d'une autre. Vous allez traîner quelque chose suite à ce péché, mais peut-être qu'il y aura rien non plus. Alors, il faut pas se focaliser en disant, j'attends ma punition, sinon, ça va pas. Voilà, laissez faire et Dieu il vous montrera au temps convenable ce qu'il a prévu pour vous. Annonce-moi l'allégresse et la joie au verset 10 et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Et on retrouve un peu plus loin le verset 14, rends-moi la joie de ton salut. Et après, on voit que à la fin du psaume, répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs, et alors on fera plus de sacrifices, plus de célébrations pour toi. Je pense que c'est quelque chose d'important aussi, de pas rester bloqué dans notre péché et de dire voilà, la repentance m'amène à la tristesse, à tout ça. Oui, on a une tristesse d'avoir péché contre Dieu, mais après doit venir la joie. Si on se repent devant Dieu sincèrement, alors on est pardonné, alors on peut retrouver la joie, on retourne dans l'état où on était avant, et il n'y a aucune raison de rester bloqué, de rester dans le noir, en fait, dans la dépression suite au péché, et de ne plus s'en sortir à cause de ça. La suite logique de la repentance, c'est la joie. C'est important parce qu'on peut aussi nous-mêmes, en fait, pas simplement subir une tristesse qui est due à la situation, mais nous-mêmes se rendre triste et se dire, voilà, faut que je sois triste parce que, voilà, j'ai commis un péché, je peux quand même pas être joyeux. Non, je me suis repenti et donc je peux être joyeux maintenant et le Seigneur remet sa joie dans mon cœur. Je dois pas m'auto-flageller et me dire, voilà, maintenant je dois être triste pendant, allez, j'ai fait un péché grave, un mois je dois être triste, après c'est bon. C'est ridicule ces situations-là. Ça fait rire comme ça, mais quand on est dedans, c'est comme ça qu'on les vit malheureusement. Et David savait de quoi il parlait, il a quand même vu l'enfant mourir devant ses yeux aussi. Il aurait pu après toute sa vie se tourmenter, se dire voilà, c'est de ma faute s'il est mort. Et voilà, ça pouvait tout à fait tourner en dépression après derrière ça. Mais il a choisi de se tourner vers Dieu, de bénéficier de ce pardon qui est offert et donc d'être joyeux après. On voit aussi à la fin. Que Dieu veut pas de sacrifice supplémentaire. C'était au verset 18. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Alors ça, c'est bien avant la repentance et avant le pardon, d'accord? Ça vient pas en contradiction à ce que je viens de dire. Ce qui dit donc à la base dans ce verset-là, c'est que Dieu ne veut pas de sacrifice supplémentaire. C'est pas parce que j'ai commis quelque chose de mal que je dois aussi me forcer dans ma tête à me dire, bon alors, il va y avoir un sacrifice pour expier ça, faut que je fasse une croix sur ça, ou voilà. On a tendance aussi à marchander nous-mêmes dans notre tête et à se dire, voilà, je m'inflige ça et voilà, ça paye un peu ma dette envers le Seigneur. Il n'y a rien à payer, Dieu a tout payé. J'ai pas besoin de m'infliger des souffrances, des sacrifices supplémentaires. Le sacrifice qui était agréable à Dieu, c'était ma repentance sincère, ma tristesse d'avoir péché et quelque chose de sincère dans mon cœur. Alors, je continue un petit peu sur la repentance. Je vais laisser le psaume 51. Il y a énormément de versets sur la repentance dans la Bible. On va pas tout faire, hein, mais j'en ai juste choisi quelques-uns qui me paraissaient moins intéressants dans notre cas. Dans Acte 3, verset 19, on lit: Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alors que ce n'est pas tout à fait le même contexte, là ça parle de conversion initiale en fait, mais c'est pour nous aussi en fait. Convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. La suite logique du pardon, c'est la joie et c'est la construction. C'est quelque chose de positif après. Dans le psaume 51, c'était bâti les murs et on pourra refaire des holocaustes, on pourra refaire des choses, quoi. On sent qu'il y a un nouveau départ. Et ça vient encore une fois en contraste de notre situation à nous où on pêche, on est pardonné, mais voilà, ça, c'est pas terrible et ça a tendance plutôt à plonger vers le bas quand même derrière. Là, la suite logique de ça, c'est je construis et je repars sur quelque chose de nouveau. Alors, dans le même ordre d'idée, mais on ne le lira pas, vous pouvez lire aussi Néhémie chapitre 1, où Néhémie est devant le roi. Il a des nouvelles de gens qui étaient à Jérusalem et qui disent, ben, la ville, elle est détruite, il n'y a plus rien, c'est la misère, ça ressemble plus à rien alors que c'était si glorieux avant. Et Néhémie se met devant Dieu et demande pardon pour ses péchés. Alors qu'on se dit, bon, il est scribe ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mais il demande pardon pour ses péchés et pour ceux de son peuple. Et il se met sincèrement devant Dieu. On voit une tristesse qui est notable, en fait. Le roi, qui l'a jamais vu triste, va dire, mais qu'est-ce que t'as? T'es pas bien là? Et donc il lui explique, il dit, bah, ma ville, elle est détruite, ça va pas. Et en fait, la suite de ça, c'est que Néhémie va retourner à Jérusalem et va reconstruire la muraille. va reconstruire la ville et il va faire des choses et voilà. On sent encore une fois cet aspect de reconstruction et de faire quelque chose qui était encore plus grand, plus beau qu'avant, encore mieux. Voilà. Alors c'est pas l'orgueil de faire mieux, de dire voilà, je vais faire encore plus grand, mais c'est l'idée de repartir et de faire quelque chose de nouveau. Dans 2 Chroniques 7, verset 13, on dit: quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça aussi, c'est une promesse pour nous. On disait tout à l'heure de David qu'il avait, il avait commis adultère avec Bathsheba, il avait fait tuer Uri. Et donc Dieu, après, l'a puni et a permis en fait que l'enfant qui était né de cette relation meure derrière. Mais ça n'est pas resté là. Il a eu un enfant encore après, et c'est cet enfant-là qui a été choisi par Dieu, malgré tous ses frères et sœurs, pour devenir le roi. C'est Salomon qui est devenu roi après. Donc Dieu n'avait pas fait une croix sur cette relation en disant: bon, maintenant ça, c'était mal parti, de toute façon on n'en fera plus rien, je veux plus que t'aies d'enfant. Enfin voilà, ça aurait pu tourner quelque chose de très noir comme ça. Et Dieu a permis qu'il ait un nouvel enfant et que la lignée royale continue par cet enfant-là. Bon, ça, c'est encourageant pour nous aussi. Des fois, voilà, on bloque, on se dit: bon, on ne peut plus rien faire, faut tout recommencer. Mais non, Dieu, il ne fait pas une croix dessus, il récupère les morceaux et il fait quelque chose de mieux. Mais c'est lui qui le fait. Ça, c'est important. Et j'avais dans ma tête ce contraste en fait entre lui et Saül. Alors Saül, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Si vous vous souvenez de l'histoire, Samuel lui avait dit: tu vas. Alors je crois qu'il se battait contre les Philistins et Samuel lui dit: bah tu m'attends à tel endroit, j'offrirai le sacrifice et après tu pourras y aller. Et en fait Saül l'attend, l'attend et puis Samuel il vient toujours pas. Au bout d'un moment, il voit les gens qui commencent à se disperser, il a peur et il finit par offrir le sacrifice lui-même. Quand il a fini, Samuel arrive et dit: qu'est-ce que t'as fait? Et là encore, on ne le lira pas parce qu'on va être un peu court, mais globalement, quand vous lisez la réaction de Saül, au début, c'est: non, 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 j'ai rien fait, limite, c'est pas moi, j'ai rien fait. Après, bon, d'accord, je l'ai fait, mais j'avais une bonne excuse, tout le monde partait, je voyais que les gens se dispersaient, mais reste avec moi, hein, faut qu'on fasse bonne figure devant les autres. Et il y a beaucoup de choses comme ça, il se trouve des excuses, il ment, et voilà, Dieu a vu l'orgueil de son cœur et l'a jugé aussi. Alors, en apparence, il n'a rien eu derrière. Il a vaincu les Philistins, à ce moment-là en tout cas. Et voilà. Mais par la suite, il a perdu le trône et c'est revenu justement à la famille de David. Et on voit le côté punition dont on parlait tout à l'heure, que dans certains cas, il y a une punition immédiate, dans certains cas, il n'y a pas. Il y a aussi là le cœur de Saül qui était plein d'orgueil et donc qui a été puni par la suite. Et il y a le cœur plein de repentance de David qui après est remis sur la route et rétabli par la suite. Alors pourquoi je parle autant de repentance? C'est parce que le dimanche où j'avais prévu ça, en fait, le dimanche juste avant, il y a 15 jours, donc il y a 3 semaines, je ne savais pas trop sur quel point insister. Et on a chanté beaucoup de chants qui étaient fort justes, et entre autres, Quel ami fidèle et tendre. Et si vous. Bon, on ne va pas ressortir les paroles, mais la strophe 4 dit: Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous apprendre, à vaincre en comptant sur lui. Ça aussi, ça fait partie du message. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. C'est exactement ça. Et on a chanté: c'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi. Par ta grâce, nous voici. Par grâce, nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, le refrain, qui vivrait? Personne. Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Et ça m'a encouragé à insister un peu plus sur la repentance. Alors, je trouve que ce n'est pas négatif, au contraire, puisque ça mène à la joie, à la reconstruction. Mais des fois, c'est vu un peu négativement et je pense qu'on se trompe un peu. Alors, j'ai. Toute prédication, il y a forcément des anecdotes. Là, j'en ai trouvé des bonnes sur le regret et la repentance. Comme ça vous détendra un petit peu. Là, vous me regardez tout stressé. Une dame, devenue visiteuse de prison, s'est forcée de réconforter les prisonniers. Elle eut à s'occuper d'un nouveau détenu à l'aspect fort sympathique. Qu'avez-vous fait pour être là? Demande-t-elle. Ah, ne m'en parlez pas, répliqua le jeune homme. Tout ce qui m'est arrivé, c'est bien ma faute à moi. Et tout ça pour avoir cambriolé une maison. Ah, bon comportement, ce monsieur. Ah, bien sûr, vous en éprouvez du regret, monsieur. Ah non, 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 c'est pas ça. Où je m'en veux, c'est d'avoir marché sur la queue du chat. Il a miaulé tant et plus, et comme ça, je me suis fait pincer. Voilà. Repentance, oui et non. Beaucoup, après avoir fait ce qui est mal, n'éprouvent que le regret d'avoir été pris sur le fait de s'être fait prendre. La repentance, c'est tout autre chose. C'est la tristesse qu'on éprouve d'avoir péché, la douleur d'avoir offensé Dieu. Le regret est stérile, le remords est destructeur. La repentance est salutaire. Elle conduit à la découverte du pardon que Dieu nous offre en Jésus-Christ, son Fils, et à une vie entièrement nouvelle. Alors un homme vint voir un pasteur. Il avait quelque chose sur la conscience et désirait le confesser. « Cela me pèse jour et nuit et ne me laisse aucun repos. »« Qu'est-ce donc ?»« Je n'ose pas le dire, c'est trop pénible. »« Mais il faut pourtant l'avouer, sinon vous n'aurez pas de repos. »« J'ai volé. »« Et quoi ?»« Une corde. » »« Eh bien, dit le pasteur, rapportez-la à celui à qui vous l'avez prise, dites-lui vos regrets, et l'affaire se réglera sûrement. » Peu de jours après, le voleur reparut et dit qu'il n'avait pas retrouvé la tranquillité d'esprit. « M'aviez-vous tout dit ?» demande le pasteur. « Non. »« Eh bien, dites-moi toute la vérité cette fois-ci. » « C'est qu'au bout de la corde, il avait quelque chose, » dit-il en hésitant. « Il y avait une vache. » Voilà. Beaucoup sont disposés à avouer la corde, mais pas la vache. Aussi, il n'y a pas de pardon reçu, pas de paix, pas de transformation de la vie. Il y a une petite dernière qui illustre ce que je disais tout au début, que l'aspect d'avoir un... L'aspect d'avoir honte, d'avoir de la tristesse dans le cœur de péché, c'est une bonne chose. Un prédicateur venait d'inviter ses auditeurs à venir à Jésus pour être soulagés du poids de leurs péchés. « Le poids des péchés ?» s'exclame un jeune homme. « Moi, je le sens pas. Je me sens vraiment pas coupable. »« Dites-moi, » répondit l'évangéliste, « si on mettait 50 kilos sur la poitrine d'un mort, le sentirait-il » « Bien sûr que non, puisqu'il est mort. » « Eh bien, l'homme qui ne sent pas sa culpabilité devant Dieu est moralement mort. » C'est pour rire, mais il y a du vrai dedans. C'est pour ça que je l'ai dit. Alors, j'ai repris aussi, toujours pour illustrer un peu les mêmes choses. Il n'y a pas d'idée compliquée dans ce que je dis au final. La comparaison avec un père et un enfant permet de comprendre un peu mieux le principe que je viens de vous dire. Un enfant a encore fait des bêtises à l'école. C'est une habitude pour lui. Je sais, je parle de situations vécues. Ça peut se sentir. En rentrant à la maison, il peut adopter plusieurs comportements, plusieurs techniques, on dit, quand on est enfant. C'est la première, ne rien dire et laisser venir. Ensuite, il improvisera et verra bien en fonction de ce que ses parents vont dire. Ça se trouve, ils diront rien. Bon, ça rate à chaque fois. Après, on n'a peut-être pas les mêmes parents, mais moi, ça ratait à chaque fois. C'est ce qu'ont fait Adam et Ève dans le jardin, d'ailleurs. Ils ont attendu le soir que Dieu y vienne dans le jardin. Ils ont improvisé une défense. C'est pas moi, c'est lui. Et voilà le résultat. Dieu a maudit l'homme et la femme et les a chassés du jardin. Pas la bonne solution. Il y a les ados qui coûtent du coup, là. aller au-devant et mentir. Trouver une excuse bidon. Bon, ça peut marcher avec certains parents, mais pas avec Dieu, malheureusement. Dans ce cas, on ne fait qu'aggraver la situation parce qu'on se met du côté du malin. C'est lui le père du mensonge. Et avec les parents, il y a un risque qu'ils le découvrent par la suite aussi. Bon. Quelle que soit l'approche, on peut aussi aller vers les parents et dire « De toute façon, je ne sais pas faire autrement, c'est tout, je suis comme ça, il faut bien t'y habituer. Voilà, je ne change pas, je suis comme ça, je ne peux rien faire, c'est tout. » C'est bien, il y a déjà une petite prise de conscience. Mais voilà, il y a dedans l'idée de défaitisme, de « je ne peux rien faire » et moi, je ne suis pas sûr que les parents apprécient non plus, en fait. Ça ne marche pas terrible. Et Dieu apprécie encore moins le défaitisme, il n'en veut pas. Il veut reconstruire, faire quelque chose de propre. La dernière approche, pratiquée à la fin de ma scolarité, c'est aller au-devant de son père et lui demander pardon pour ce qu'on a encore fait, le regretter réellement. Dans ce cadre-là, on peut vraiment lui expliquer « Je suis désolé, je n'arrive pas à faire autrement. » Et dans ce cas-là, il verra la tristesse du cœur, il pardonnera, des fois on prendra une punition quand même, ça n'empêche pas. Mais voilà, la situation se règle et il peut même nous aider à trouver des solutions. En tout cas, dans le cas de Dieu, c'est ce qu'il fait. Il nous aide à trouver une solution, il nous aide à avancer et à ce qu'on reste pas sur ce, mais je sais pas faire autrement. Voilà. Alors ça me faisait penser cette situation à Romains 7, verset 18, qui dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. » Et il continue « Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, parce que c'est son esprit qui nous libère. » Je paraphrase un peu, mais c'est ça. Voilà, je réinsiste sur l'aspect repentance et l'aspect tristesse il faut qu'il y ait une bonne tristesse, on va dire. Avec 2 Corinthiens 7, verset 10, qui dit « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Alors, c'était les deux points importants, pas douter de son salut et la repentance, la repentance, la repentance, tout le temps. Et Dieu voit le cœur et il honore le cœur. Après, voilà, il y a une durée, des fois trop longue à nos goûts, mais voilà, c'est le Seigneur qui fait les choses. Alors, d'autres solutions, d'autres choses, alors des bricoles hein, que vous avez certainement compris vous-même, mais je pense que c'est bien des fois de tout résumer et tout regrouper. Prier, lire la parole. Ça aussi, c'est important. Parce que si on se prive de manger quand on est malade, on ne risque pas de s'en remettre. Alors, des fois, il y a des maladies où, voilà. Il y a des maladies où il faut éviter de travailler trop son estomac, laisser reposer. Mais voilà, c'est un cas particulier quand même. Quand on est malade, il faut avoir des forces pour tenir bon contre la maladie. Faire de mon mieux possible. C'est pas une raison de pécher parce que j'y arrive pas. C'est pas parce que voilà, c'est compliqué, parce que je dois faire mon possible à moi, Dieu fera le reste. Je dois pas juste me lâcher et me dire, bon ben voilà, maintenant Dieu il fait son boulot, moi j'ai fait ce que je pouvais, c'est tout. Ça, c'est un comportement que Dieu va pas aimer du tout. Et obéir à Dieu de tout mon possible. Un exemple qu'on cite souvent aussi, c'est Joseph, qui a fui la femme de Potiphar. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas encore la raconter, mais ce qu'il y a à noter quand même, c'est que pour que cette femme se retrouve avec sa tunique entre les mains et réussisse à lui prendre, c'est qu'elle était proche de lui. Voilà, il était en situation où il ne pouvait pas négocier, la situation était trop urgente, trop rapide, il n'y avait pas le temps de réfléchir probablement à une solution. Et du coup, ben, il a fui. Et c'était ça la meilleure solution. Il pouvait pas vraisemblablement pas négocier avec elle. Ça se serait reproduit encore après. Voilà, il devait fuir. Et dans notre cas, nous aussi, c'est ça. Quand on est bloqué sur certains péchés, il faut réussir à fuir d'une manière ou d'une autre. Fuir les situations qui engendrent ces péchés-là, fuir les personnes qui engendrent ces péchés-là. Voilà, il y a quelque chose à faire avec la fuite. C'est un élément de solution. Une idée qui est assez proche de ça aussi, c'est comme avec la cigarette, il y a certains péchés récurrents comme ça qui sont que des mauvaises habitudes en fait. Alors qui que mauvaises habitudes, ça n'empêche pas qu'ils sont des péchés, mais c'est surtout une question d'habitude. Et on a pris le pli de commettre tel péché dans telle situation ou avec telle ou telle personne. Et il faut réussir à avoir la vision correcte. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut prier, qu'on peut demander au Seigneur. De dire, Seigneur, montre-moi les situations où je me mets moi-même en difficulté, où je sais que je vais réagir de telle manière. Et voilà, après, réussir à éviter ces situations-là. C'est pas simple, hein, mais il faut. C'est la solution à notre problème. Alors, si on rejette la solution, après, on n'en a plus du tout. Donc là, demander à Dieu de nous ouvrir les yeux, voir ses mauvaises habitudes, les conditions pour que le péché se déclenche, on va dire, et après, éviter ça le maximum. Si vous êtes comme moi, un élément de solution, c'est de mettre par écrit aussi pour ne pas oublier. Je suis capable d'être touché, et je pense que je ne suis pas le seul, par une prédication et le lendemain, ne même plus savoir quel était le titre de la prédication, quel était le thème. Parce qu'il y a des choses, beaucoup de choses, voilà. Et c'est pas faute d'avoir écouté sérieusement, mais on pense à beaucoup de choses et on oublie. Et si on écrit rapidement derrière ce que le Seigneur nous a dit, on peut y revenir régulièrement et s'appuyer dessus. Si on oublie, le malin, il a gagné. On a une solution, on l'a oublié. C'est bête. Quand on n'a pas de cerveau, on a des jambes, dit-on. Quand on n'a pas de mémoire, on a un crayon. Voilà. Mais c'est le jeu du malin, hein, de nous faire oublier. Il joue avec ça parce qu'il dit, voilà, il y a une solution. Là, si maintenant je peux lui envoyer plein de choses dans la journée, il va oublier. Et il oublie la solution. Il est reparti pour un bon moment de galère. C'est bien fait pour lui. Essayer de déterminer aussi, c'est bête, hein, mais ce qui ne va pas précisément. quand il y a quelque chose comme ça, faut cibler le problème pour pouvoir trouver la solution après. Tant qu'on est dans des réflexions un peu vagues et sur ces questions de salut, de douter, on est loin de notre problème et on n'est pas prêt de le régler non plus. Voilà, le Seigneur fait le. Nous, on a cette partie de repentance, de cœur qui est vraiment attristé par le péché et de se mettre devant lui. Et le Seigneur fait le reste après. Ça, c'est notre pas à nous et lui, il le fait. Dans Ézéchiel 36, verset 26, on lit, Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui dit Je vous donnerai, je mettrai, j'ôterai et je vous donnerai. Il n'y a que lui, c'est pas nous qui faisons cette étape-là. Voilà. On aura le temps, bon, il y a 10 minutes en vrai, mais il y a tout le chapitre 9 de Néhémie qui est sympa aussi sur la repentance. Néhémie rappelle en fait l'histoire d'Israël, un peu comme le fait Étienne dans le Nouveau Testament, voilà. Et il explique Israël, voilà, il était comme ça, il a chuté, Dieu l'a relevé, il a rechuté, Dieu l'a relevé. Il a encore chuté et Dieu l'a encore relevé. Et c'est ainsi de suite. Et Dieu relève toujours, toujours, toujours. Et la dernière fois qu'Israël a chuté, Dieu a envoyé son fils comme solution finale. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est la solution et il n'y en a pas d'autre. Et c'est important pour nous aussi, quand on chute comme ça régulièrement, de se dire, voilà, ok, je ne suis pas dans une situation normale de chrétien, mais Dieu va me relever, va me rétablir et on va repartir sur une situation normale. C'est Dieu qui a le dernier mot sur le péché. Voilà, je vais prier. Seigneur, tu ne veux bien évidemment pas qu'on tombe dans ces situations-là. Et pour autant, avec nos faiblesses humaines, Seigneur, il nous arrive de chuter et de tomber dans des situations où nous chutons de manière régulière, Seigneur. Et merci parce que tu es toujours là à nos côtés. Seigneur, tu nous pardonnes et tout ce que tu attends de nous, c'est un cœur sincère qui se repent et qui n'abandonne pas. Merci Seigneur parce que tu donnes la victoire, tu donnes le pardon, tu donnes la joie et tu reconstruis tout dans nos vies Seigneur. Il n'y a rien de négatif dans tout ça si ce n'est le péché. Mais Seigneur, toi tu n'offres que des bonnes choses et tu veux nous faire repartir du bon pied. Seigneur, nous ne voulons pas rester bloqués dans des situations, nous enliser et ne servir à rien pour toi. Mais nous voulons continuer notre vie chrétienne, grandir, devenir des adultes Seigneur en toi et pouvoir te servir Seigneur, faire quelque chose de bon. Pour ton service, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, comme le disait David. C'est sur ça que nous pouvons nous appuyer, parce que tu es comme ça. Et Seigneur, tu n'es pas, toi, influencé par les situations. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Amen.